appel depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André Lumbumbashi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lumbumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Les projets du budget 2013 est en discussion à l'Assemblée nationale. Lors de la présentation de ces projets du budget devant les députés nationaux, le lundi 5 novembre dernier, le Premier ministre a indiqué plusieurs priorités à réaliser avec ces budgets qui s'élèvent à près de 7,5 milliards de dollars américains. Parmi ces priorités figure la lutte contre les inégalités salariales, selon Augustin Matatampogno, qui pense y parvenir en réduisant le temps de vie institutionnel et en recourant aux équivalences des grades décidées en 2007. Notons que les prévisions de dépenses liées au personnel s'élèvent à près de 1,5 milliard de dollars américains dans ces projets du budget. Ce montant suffit-il, selon vous, pour atteindre cet objectif? Nous allons en parler avec Michel Osomoy, professeur en économie monétaire. Titi Mputu, Lydie Kachala réalise cette émission mise en onde par Jean-Claude Nishalam, Pierrot Elamé, je vous la présente, et Nicole Ngaka assure la supervision. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
C'est depuis hier que les discussions ont commencé au sein de l'Assemblée nationale autour du projet de budget 2013 déposé, présenté bien sûr devant les députés nationaux le lundi 5 novembre dernier par le Premier ministre Augustin Matatampogno. Nous allons nous intéresser à un des objectifs à atteindre avec ces projets de budget qui est la lutte contre les inégalités salariales selon les termes utilisés par le Premier ministre qui a déclaré au cours de son exposé que ces inégalités sont très flagrantes. Et pour y arriver, il faut réduire les temps de vie des institutions, mais aussi recourir à l'équivalence des grades décidés en 2007. Vous savez, depuis la transition, il y a eu plusieurs tractations autour de ce qui a été appelé l'accord d'Imboudi pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les enseignants, tout ce qui marche, n'est-ce pas, du budget de l'État. Et tout cela est au centre de notre échange avec vous aujourd'hui. Comment faudrait-il y arriver? Près de 1,5 milliard de dollars consacrés à cette enveloppe, cela suffit-il pour y arriver? Tous ces problèmes, toutes ces préoccupations sont à partager ensemble dans cette émission qui pourra accorder aussi la parole à Michel Somoué, analyste politique et professeur d'économie monétaire. Mais en ligne, nous avons les vieux qui nous appellent Tikikuit dans la province de Bandundu. Mais je rappelle, 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Le vieux, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Donc vous êtes à Kikuit dans les Bandundu. Pensez-vous qu'avec ces budgets dans la globalité, 7,5 milliards de dollars, près d'un milliard pour les personnels, avec tout ce qu'on a comme problème, pensez-vous que cela peut résoudre cette question épineuse de l'amélioration du social et surtout en ce qui concerne les salaires et fonctionnaires de l'État?
Merci bien, monsieur le journaliste. Je voudrais ceci. Lorsque vous recevez une responsabilité, c'est mieux de savoir l'assumer. Faisons d'abord un pas en arrière. L'exercice 2012, le budget était de 7 milliards de dollars. Allons auprès des fonctionnaires de l'État, les enseignants, les corps médicaux, demander qu'est-ce qui a changé de leurs indemnités. Aujourd'hui, le Premier ministre présente encore un budget de 7 milliards de dollars pour l'exercice 2013 et lui-même se félicite, je cite, je tiens compte de la vie sociale de la population congolaise. Non, c'est ambigu, s'il vous plaît. Hein? Dans quel pays? Et nous dirons où?
pour donc, vous, ouais. Freddy, pour vous, les vieux plutôt, vous pensez que c'est difficile parce qu'on était à 7 milliards pour 2012-2013, les prévisions sont des 7,5 milliards. Vous pensez qu'avec c'est ça, dans la globalité, ça ne peut pas résoudre le problème aujourd'hui des inégalités salariales. C'est ça votre inquiétude?
C'est un budget irréaliste, monsieur. C'est un budget qui ne va pas répondre aux besoins de la population congolaise. Mais voyez, à l'est du pays, qu'est-ce qui se passe? Avec l'exercice du budget 2012, qu'est-ce qui a changé à l'est du pays? Nos chers frères et sœurs sont victimes jusqu'au jour. Alors, c'est la manque d'une politique monétaire de mettre en place. Et vous savez, avec un gouvernement responsable, on ne sait pas ce qu'un budget annuel de 7 milliards de dollars et avec une population de plus de 60 millions d'habitants. Monsieur, c'est ambigu. Nous avons subi cette tergiversation depuis plus de 80 ans et nous en sommes navrés.
Voilà, merci, merci le vieux. Merci beaucoup le vieux, on vous écoute, vous êtes très sceptique. Oui, le vieux, vous êtes très très sceptique, les vieux, vous êtes très sceptique, vous pensez que ces budgets ne peuvent pas résoudre le problème aujourd'hui, parce que quand on regarde le 7 milliards pour 2012, le problème par exemple de l'insécurité à l'Est, cela a continué. Et comment en 2013 pourrions-nous, avec 7,5 milliards de dollars, s'attaquer au problème de l'insécurité à l'Est et au même moment résoudre le problème de la paye de l'augmentation de l'enveloppe salariale des fonctionnaires agents de l'État? Vous êtes sceptique, vous pensez que ça ne peut pas se réaliser dans ces conditions. Merci beaucoup. Vous êtes à Kikwit, dans la province de Bandundu. Freddy, vous êtes à Kindu. Au Maniema, bonjour.
Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. Et surtout, merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir intervenir à cette émission.
Vous avez suivi notre compatriote Kikwit, oui.
Oui, j'ai bien suivi l'intervention de monsieur qui vient tout à l'heure d'intervenir à partir de Kikwit. Mais j'aurais bien voulu aborder mon intervention dans ce sens. Hein. Voilà, vous savez, contrairement aux années antérieures, donc il est vrai qu'un budget estimé à près de 7 milliards de dollars américains, bon, oui, bon, c'est quelque chose qu'il faut encourager au gouvernement Matata, dans la mesure où ce budget révèle qu'il y a certes un accroissement sensible de l'enveloppe budgétaire, comme je venais tantôt de le dire, contrairement au budget mis en pied d'œuvre par les gouvernements antérieurs. C'est dans cette optique que nous estimons donc que ce budget voudrait nous dire que les efforts en termes de la maximisation des recettes ont doublé de vitesse sous l'impulsion du gouvernement de son excellence Matata Ponyo. Bon, en fait, nous, notre préoccupation n'est pas à ce niveau-là. Notre préoccupation n'est pas plutôt celle-là, mais plutôt celle de savoir si ce budget pourra rencontrer les attentes populaires. Vous savez, M. le journaliste, parce que il est vrai que le gouvernement s'est déjà a priori tracé les jalons. Là, je fais par exemple allusion à l'opération de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, visant ainsi à maîtriser les effectifs de ceux qui doivent en principe être rémunérés par l'État à l'issue de cette opération. Mais les peuples congolais, messieurs les journalistes, les peuples congolais, oui, alors?
Allez-y, vous êtes là, on vous écoute, Maître Aubin.
Les peuples congolais, plutôt, oui. C'est Freddy, les oui, peuples Freddy, congolais, oui. son problème, c'est la matérialisation de ce que ce budget est en train de projeter comme promesse à son égard. Parce que les discours, il en a suivi de tout genre, et qui sont dans bien des cas, et restés lettres mortes juste après l'électeur comme ça. Alors, en guise de conclusion, je voudrais dire ceci. Comme ce budget voudrait nous dire, d'une part, que les efforts dans le cadre de la matérialisation des recettes ont connu une augmentation sensible, il serait aussi essentiel à ce qu'ils puissent témoigner, d'autre part, une sensible augmentation sur les sociales du Congolais. Et ceci pourra nous guider à faire la bonne lecture. Sinon, ce sera une déception perpétuelle du peuple congolais qui semble tôt attendre de ce nouveau gouvernement.
Merci beaucoup, Freddy. Vous êtes à Kindu. Le fait d'abord qu'on soit parti des 7 milliards en 2012, 7,5 milliards en 2013, vous dites que c'est déjà un pas considérable par rapport à d'autres visées, parce qu'on est parti de 6 milliards, de 5,5, de 4. Le fait qu'on soit aujourd'hui, à l'heure actuelle, à 7,5 milliards, c'est déjà un pas. Vous pensez que cela montre qu'il y a un accroissement dans la maximisation des recettes, mais vous voulez qu'il y ait une corrélation entre cette volonté de l'accroissement dans la maximisation des recettes, mais aussi avec l'amélioration de l'enveloppe salariale de fonctionnaires et agents de l'État. Par ricochet, cela va résoudre le problème du social de la population. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez évoqué le problème de l'effectif. Ça a été dit aussi par le Premier ministre dans son exposé qu'il faudrait maîtriser l'effectif de la fonction publique, de tout ce qui marche de ces budgets de l'État dans leur salaire. C'est en maîtrisant cet effectif qu'on pourra aussi voir comment récupérer l'argent qui peut servir tout le monde. Merci beaucoup. Nous restons à Kindu avec Maître Aubin. Bonjour.
Monsieur le journaliste.
Vous êtes avec nous. Vous avez suivi les compatriotes. Pour notre ami de Kikuta, lui, il a pensé que ça ne va pas être possible aujourd'hui qu'on puisse résoudre cette question épineuse des inégalités salariales avec ces montants alloués, bien sûr, au personnel. Mais Freddy, lui, pense que c'est déjà quelque chose à encourager, le fait que les budgets puissent avoir cet accroissement, mais quitte à travailler maintenant pour qu'il y ait une adéquation entre ces budgets, la maximisation des recettes, mais aussi avec les enveloppes salariales. Quel est votre point de vue?
Oui, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cette opportunité dans votre plateau. J'ai trois préoccupations majeures par rapport à ce que nous sommes en train de débattre à la date de ces jours. Monsieur le journaliste, vous savez que les députés nationaux, pratiquement, sont les représentants des peuples. C'est pour cette raison que nous avons confié pratiquement notre confiance à leur personne afin d'aider tant soit peu au gouvernement d'essayer de voir ce qu'il s'est assigné comme objectif. Mais il se pose un problème au niveau de l'Assemblée nationale lorsque les députés nationaux sont en train de débattre sur la question de leurs émoluments. Et vous allez vous rendre compte qu'ils essaient même de décréter un huis clos pour que les émoluments qui les concernent soient au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est un problème de confiance que nous avons pratiquement émis et que cette confiance est branlée par le fait que nous avons pratiquement donné la confiance aux députés pour qu'eux débattent à cause de la population, mais eux, par contre, débattent au détriment de cette population. C'est comme ça que moi, je vais inviter le peuple congolais de chercher à voter utile la fois qui va venir. Ça, c'est le 1. Par rapport à l'éducation au niveau de l'école primaire, moi, je suis pratiquement ici à Kindu, mais je suis en train de faire étudier les enfants. Mais il y a de ces enfants qui sont à l'école primaire qui, aujourd'hui, certaines écoles, première année, deuxième année primaire, payent les dons pour les parents. Hein, c'est ce qu'on appelle ici chez nous dons des parents. C'est-à-dire que le gouvernement congolais avait un certain moment assigné qu'il va prendre en charge les enseignants et prendre en charge les élèves qui, de première année, deuxième année, pour pratiquement arriver à résoudre, tant soit peu, les difficultés qui se retrouvent au niveau des foyers congolais. Et donc, aujourd'hui, cela ne se fait pas, ne se matérialise pas parce que l'enseignant congolais vous touche 30 000 francs, 45 000 francs au niveau de la banque. Et d'ailleurs, au niveau de nos banques qui sont ici, et qu'aux bancaires, aux banques, nous avons vu les enseignants qui venaient attendre les salaires avec cette bancarisation pendant 8 jours, 5 jours, et que certains enseignants pensaient que leur nom était dans les listings, mais ils ne recevaient pas de l'argent. Comment voulez-vous comprendre maintenant que c'est ce budget de cette année ici qui vient d'être voté, qui sera voté immédiatement, résoudra le problème pratiquement du peuple congolais. Et voilà comment nous sommes en train de décrier, et que les députés nationaux qui nous écoutent, qui vont nous écouter le soir, ou s'ils nous écoutent à ce moment, pour se réfléchir pratiquement par rapport à cette question de la bancarisation, et voir aussi la situation salariale qui concerne pratiquement les démunis, parce qu'ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, on ne peut pas être député national sans qu'elle ne soit passée par l'école primaire. Et voilà. Donc, nous devons comprendre que l'enseignant est un monsieur qui doit être valorisé,
voilà. Monsieur le journaliste. Oui, Maître Ben, on vous a suivi. Vous pensez qu'il faudrait, dans le débat qui se déroule au niveau de l'Assemblée nationale, les députés tiennent compte de cette réalité, de ces budgets par rapport aux problèmes réels qui se posent sur le terrain. Vous savez, l'année passée, l'autre année encore, le débat a tendance à être partagé. Il y en a qui pensent, d'ailleurs, quand on est des fois dans le camp de l'opposition, on pense que le budget n'est pas réaliste, il ne peut pas résoudre le problème. Mais quand vous écoutez ceux de la majorité, il y en a qui disent non, on soutient ce budget réaliste, il tient compte des problèmes, des paramètres économiques aujourd'hui et de notre capacité de mobiliser les recettes. Mais vous pensez qu'il faut aller au-delà pour que ces budgets puissent trouver solution au problème de salaire, que ce soit des enseignants, que ce soit des fonctionnaires, parce que le Premier ministre en a fait son objectif, hein, lutter contre ces inégalités-là. Merci beaucoup, Maître Aubin. Vous êtes à Kindu, dans le Maniema. Nous avons Jean-Jacques qui est à Bounia, en province orientale. Bonjour, Jean-Jacques.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi la problématique, n'est-ce pas, dans notre émission. Il y a beaucoup d'objectifs définis par le Premier ministre quand il a présenté ses projets de budget 2013. Mais nous avons ciblé le problème de la lutte contre les inégalités salariales. Comment on peut y parvenir? Près des milliards de dollars destinés, n'est-ce pas, à la paie. Pensez-vous que cela puisse résoudre ces problèmes et lutter efficacement contre ces inégalités salariales?
Merci beaucoup, M. le Jacques, pour la parole que vous me passez. Je voudrais d'abord dire ce qui le budget là, il est modique. Évidemment, le budget tient compte des recettes que chaque pays fait, on peut se diviser par rapport aux recettes. Dans notre pays, tout ce que nous avons comme des rapports, des ONG qui font sur les bois qui partent, les minerais qui partent, tout ça, ça pouvait quand même augmenter notre budget. Mais notre gouvernement, tout ce qu'on fait comme remarque là, ça ne dit rien, il ne tient pas compte de ça. Comment allons-nous faire un budget qui peut arriver à résoudre les problèmes sociaux dans notre pays? Nous sommes habitués avec ce que le Premier ministre vient toujours. Nous avons été avec le Premier ministre du 5. Quand il est arrivé au Parlement, il a parlé, il a dit, oh non, d'ailleurs nous allons aller jusqu'au-delà de Mboudi. Et il est parti, on n'a rien vu. Le Premier ministre qui arrive encore. Non, nous sommes ce budget, c'est un budget social. On n'a rien vu. Et puis, il vient encore avec notre terme, non, inégalité de salaire. Inégalité de salaire. Nous savons que les députés nationaux touchent plus aujourd'hui plus de 13 000 dollars. Pendant que nous, les enseignants sur place, touchent 50 000. Mais c'est quoi ça? Nous sommes habitués dans notre pays avec ce genre de choses. Nous sommes fatigués avec ce genre de discours de le Premier ministre. C'est juste pour nous flatter. Pour flatter la population avec des termes, et par après, on ne voit rien qui va se faire,
etc. Voilà. Vraiment, comme tu veux. Oui, vous êtes vraiment déçu, Jean-Jacques. Vous avez même été remonté dans l'histoire pour voir tous les premiers ministres qui sont passés pour présenter, défendre les budgets devant les parlements, disent la même chose. Cette fois-ci, ça va aller. Cette fois-ci, le budget est réaliste, il va résoudre les problèmes. Mais concrètement, vous vous rendez compte que sur terrain, vous, dans votre vie quotidienne, avec ce que vous touchez comme salaire en tant qu'enseignant, vous ne voyez pas qu'il y a un changement. Et d'ailleurs, vous pensez qu'on peut aller au-delà de 7,5 milliards, hein, si on peut bien canaliser les recettes. Vous avez évoqué l'exploitation du bois, l'exploitation forestière, les problèmes de l'exploitation minière. Tout cela, vous pensez que ça peut résoudre les problèmes, aller au-delà même des 7,5 milliards, mais à condition qu'il y ait une traçabilité, n'est-ce pas, claire, de recettes de l'État. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à la discussion qui se déroule en ce moment au sein de l'Assemblée nationale autour du projet de budget 2005 défendu présenté par le Premier ministre Auguste Matata Mponyo. C'était le lundi 5 novembre dernier. 7,5 milliards de dollars. Parmi les objectifs retenus par le Premier ministre figure la lutte contre les inégalités salariales. Une enveloppe qui s'élève à près d'un milliard de dollars pour cette cause. Pensez-vous que cela puisse suffire pour résoudre ces problèmes des inégalités salariales? Vous pouvez aussi intervenir par la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Petro qui nous appelle de Walikale dans la province du Nord Kivu. Bonjour Petro.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes avec nous sur les antennes, vous avez suivi les uns les autres votre point de vue.
En tout cas, je les ai suivis avec beaucoup plus d'attention. Bon, à ce qui concerne les montants alloués pour l'enveloppe salariale des agents des fonctionnaires de l'État pour les budgets que c'est le au gouvernement Matata Ponte, il trouve que le montant est trop minime. Car avec le gouvernement sortant de Adolphe Muzito, le montant était un peu supérieur, mais les choses n'ont pas bien marché. Prenons un peu l'exemple des enseignants professeurs, ceux-là qui enseignent dans des écoles humanitaires et aussi dans des écoles primaires. Ils reçoivent 50 000 francs hein, pendant 60 jours de travail. Alors, ceux qui discutent les problèmes de l'enveloppe salariale des fonctionnaires de l'État, nos députés nationaux, ce sont eux qui s'accaparent des montants plus élevés et ces derniers veulent d'abord à ce qu'ils puissent mettre en pratique ou bien satisfaire leurs besoins et nous autres nous laisser gâcher notre vie. Voilà, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Petro. Vous êtes très inquiet, Petro. Vous pensez d'ailleurs, hein, vous pensez d'ailleurs qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les institutions elles-mêmes absorbent, n'est-ce pas, le gros de ce budget et ça sera difficile qu'on puisse résoudre le problème. Parmi les démarches à suivre, le Premier ministre a parlé de la réduction du train de vie des institutions. Vous, vous pensez que les enseignants ils vont rester là où ils sont, mais curieusement, les membres des institutions, vous avez parlé des députés qui discutent autour de ces projets de budget, vous avez parlé des membres du gouvernement, du Sénat, toutes les institutions vont absorber presque la part importante dans, de tous ces montants alloués pour les personnels et malheureusement, le reste de la population ne va rien bénéficier. Je vous signale déjà que notre invité vient de faire son entrée dans ce studio, professeur Michel Sommeau. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Merci encore une fois de plus d'avoir accepté l'invitation des Radio Capi pour partager avec les auditeurs les préoccupations par rapport à ces débats autour du budget, projet du budget 2013.
C'est moi qui vous remercie, mais permettez-moi de porter un petit correctif rapidement. Je ne suis pas encore professeur, je n'ai pas encore soutenu ma thèse. Je suis encore doctorant en sciences économiques, donc modestie oblige.
Merci. Voilà, nous allons revenir à vous, le temps d'écouter Olivier qui est à Kikuit et André qui est à Kananga. On va revenir à vous pour amasser les préoccupations des auditeurs parce qu'ils ont été déjà très nombreux qui sont passés pour donner leur point de vue par rapport à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires agents de l'État suite à ces montants alloués, bien sûr, hein, à cette cause dans ce projet de budget 2013. Olivier, vous êtes avec nous. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kikuit dans la province de Bandundu. Vous avez suivi les uns et les autres. Pensez-vous que plus des milliards, hein, on peut dire 1,5 milliard de dollars consacrés aux dépenses pour les personnels, cela peut suffire à résoudre cette question d'inégalité salariale comme retenue comme objectif par le Premier ministre?
Oui, voilà, merci. Mais avant d'intervenir, je voulais quand même vous rappeler un des titres des journaux parus après le passage du Premier ministre. Mmh. Voici ce qu'il dit. Matata Ponyo sauvé de justesse par Obe Minako. Vous êtes à Kinshasa, vous avez lu les journaux. Je pense que ce titre est révélateur. Ça signifie que au sein du Parlement, il y avait déjà des doutes, mais il a fallu sauver la face. Majorité face à la majorité, les loups ne se mangent pas. Donc voilà. C'est pour dire qu'il y a un problème déjà au niveau de la conception de ce budget. Et le premier intervenant a dit tout à l'heure qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre le budget de 2012 et celui de 2013. Alors, moi, je dis une chose. Réduire les inégalités salariales, monsieur le journaliste, cela ne signifie pas amélioration des salaires. Donc, l'homme de Kindu, enfin, il y a un intervenant qui m'a précédé, venait de parler de 50 000.
Oui. Celui de Walikale.
2000, vous me rapprochez celui qui a 55 000, eh bien, c'est absolument insignifiant. Donc, on n'a rien fait. Alors, passer de 7 milliards à 7 milliards et demi, c'est mathématiquement parlant, ce sont des gros chiffres, mais ça ne veut absolument rien dire. Si nous considérons les salaires que le fonctionnaire congolais a, et si nous considérons le nombre de ces fonctionnaires-là. Donc, ça ne représente pas grand-chose, et à la fin du mois, vous verrez que les salariés vont toujours continuer à pleurer. Ça, c'est une première chose. Alors, je pense qu'il y a une deuxième chose aussi que nous devons dire, c'est que le Premier ministre a tenu un discours que moi j'appelle propagandiste. C'est comme si on était encore à l'époque de la campagne électorale. Voilà, je vous donnerai ceci, je vous donnerai cela. Nous sommes dans ce Congo depuis plusieurs années. En fait, les discours, je peux dire que les autorités congolaises peuvent se réjouir parce qu'ils ont un peuple qui a une mémoire très courte. Ils peuvent se réjouir. Et c'est pour ça qu'ils continuent à circuler librement dans les villes, parce que, bon, nous sommes là très passifs, mais en réalité, on devait réagir énergiquement. Alors, la troisième chose, c'est qu'au niveau du Parlement, il y a des amis qui l'ont déjà dit, au niveau du Parlement, il y a comme une absence de conscience. Parce que tous ceux qui arrivent au Parlement, ils oublient très rapidement les situations d'hier. Nous avons connu des enseignants qui, par la chance naturelle, sont arrivés au Parlement, mais automatiquement, ils se sont mis dans une classe des intouchables et des personnes qui doivent prendre des décisions, qui doivent voter pour des choses qui, en réalité, ne donnent absolument rien à la population. Donc, voilà. Alors, ça signifie que nous avons encore des problèmes à résoudre, d'abord au niveau de la conscience même de l'individu, du Congolais, qui change automatiquement de langage dès qu'il change de statut. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et en résumé, je peux dire que le Premier ministre n'a rien apporté parce que la réduction des inégalités salariales n'a rien à voir avec l'amélioration des salaires. Donc voilà.
Merci, merci beaucoup Olivier. Vous êtes très inquiet. Le fait qu'on puisse lutter contre les inégalités salariales, cela forcément ne veut pas dire qu'on va améliorer les salaires en soi. On va voir ensemble avec notre invité qui est spécialiste dans ce domaine comment tout cela peut-il être possible avec ces budgets et dans les cas précis de la RDC. Ce sont les questions qui vont trouver des réponses tout de suite après avoir écouté André qui est à Kananga, au Kasaï et Occidental. Bonjour André. André, bonjour. Voilà, on a peut-être des soucis avec la ligne d'André. Nous allons revenir dans ce studio après quelques secondes pour accorder la parole à notre invité qui pourra réagir. Vous avez été nombreux à vous exprimer depuis les débuts. On va voir ensemble tout cela. Qu'est-ce qui peut être possible par rapport à ces volets que nous avons considérés dans cette émission, la réduction, oui, la lutte contre les inégalités salariales à travers le budget 2013.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, monsieur Michel Sommoy, nous avons eu près de 7 auditeurs, je crois bien, pour depuis le début de cette émission. Comme je viens de l'expliquer encore, nous avons pris l'angle à cet objectif de la lutte contre les inégalités salariales. Comment on peut y parvenir dans ces budgets? Le Premier ministre a fait de cela son cheval de bataille. Il pense qu'on peut bien, avec ces budgets, résoudre ces problèmes de ceux qui touchent 50 000, des autres qui touchent 4 000, des autres qui touchent 50 000 francs, les autres qui touchent 13 000 dollars, les autres touchent 6 000 dollars. Comment on peut parvenir à résoudre ces problèmes avec ces budgets? Mais d'une manière d'abord globale, avant qu'on entre dans ce qui concerne effectivement les personnels, d'une manière globale, la première question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir comment, quand on élabore un budget, on peut, quels sont les paramètres qu'on doit prendre en compte pour arriver à un équilibre salarial quand on est en train d'élaborer un budget de l'État.
Pierrot, merci. Pourquoi vous voulez qu'on parle seulement d'un équilibre salarial? Il faut commencer parce que le salaire n'est que le prix d'un des facteurs économiques. C'est le prix du facteur travail. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent dont on devrait aussi tenir compte sur les autres marchés. Il y a le marché du travail, il y a le marché de la monnaie, il y a le marché des biens et services, il y a le marché financier, il y a le marché d'échange et tout ça. Et partout là, il y a un prix. Et le principe d'une économie de marché, c'est que le prix se dégage par la loi de l'offre et de la demande. Ce qui signifie qu'au préalable, il faudrait que ces différents types de marchés soient correctement, économiquement, rationnellement organisés. On ne peut pas parler du salaire dans un pays où on ne connaît pas la question de l'équilibre entre l'offre et la demande du travail. C'est une question qui est totalement absente du débat, c'est-à-dire la question relative au marché du travail chez nous ne compte pas. Je voudrais dire que, plutôt, pour revenir à votre question, qu'avant d'aborder la question sur le salaire, j'aimerais, avec votre autorisation, jeter un petit regard sur les méandres de ce budget. Parce que, en fait, je m'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui détermine. Moi, je veux dire plutôt qu'est-ce qui détermine l'élaboration des prévisions budgétaires en général. C'est d'abord les objectifs que le gouvernement s'est assigné vis-à-vis de la population. Parce qu'un budget n'est qu'un instrument pour la réalisation d'un certain nombre de besoins exprimés par la société. Alors, il y a cela, il y a maintenant les conditions de réalisation de ces objectifs. C'est ce qu'on appelle le cadre macroéconomique, ou plutôt les indicateurs de la gouvernance économique. Comment le gouvernement entend-il, au moyen de ce budget, comment entend-il parvenir à répondre à ces questions, à ces besoins de la population, à travers l'élaboration des prévisions budgétaires. Et vous avez toute une série d'indicateurs macroéconomiques, qu'on appelle le cadre macroéconomique, qui ne doit pas être un tableau statistique. Ça doit être des calculs éminents, émergents d'une rationalité économique. Aussi longtemps que le pays n'a pas encore organisé son économie en termes d'un système d'interrelations, il est difficile de considérer le budget comme un instrument de politique conjoncturelle, autant que la monnaie d'ailleurs. Parce que ce ne sont que les deux instruments dont tous les gouvernements du monde se servent pour réguler des problèmes de conjoncture de leurs économies respectives, c'est-à-dire la monnaie et le budget. Mais dans le cas où notre pays n'a pas encore organisé l'économie, c'est-à-dire n'a pas encore organisé les marchés, le marché du travail, le marché de la monnaie, le marché des biens et services, aussi longtemps que ces marchés fonctionnent comme dans une sorte de jungle. Tout ce qu'on est en train de faire ici n'est que des simples imputations statistiques qui n'ont aucun contenu ni social ni économique. Voyons en ce qui concerne par exemple les cadres macroéconomiques. Tout d'un coup, je constate que nous sommes déjà à peu près à 21 milliards de dollars de PIB. C'est-à-dire qu'en 3 ans, le Congo aura doublé son PIB. En l'espace de 3 ans simplement, nous avons doublé notre PIB. Le PIB qui est l'ensemble des biens produits par une économie.
Oui.
Mais pourtant, quand vous regardez le vécu quotidien, vous ne voyez pas cet accroissement des biens et des services dans ce pays en 3 ans. J'ai l'impression plutôt qu'on est en train de faire un petit recul en arrière. Ça, c'est la société, une petite enquête peut vous le prouver. Le niveau de la consommation est en train de baisser au jour le jour dans cette société, et la responsabilité, la capacité de l'État à s'assumer comme responsable de la société pour la protection des citoyens et des biens, pour la protection du territoire national, me paraît être de plus en plus faible. Pourtant, on dit notre budget, notre PIB a doublé en 3 ans. C'est l'impression que cela donne. Et ce qui est plus curieux encore, c'est de constater que le PIB va même faire 8, on va même amorcer un taux de 8,2% du taux de croissance, donc c'est-à-dire que nous sommes en train de croître continuellement, alors que quand je regarde les mêmes élaborations, les mêmes analyses du budget, le gouvernement parle d'un recul de la masse monétaire, c'est-à-dire une contraction de la masse monétaire. Tout le monde sait que la masse monétaire est une variable précurseur du PIB, c'est-à-dire dans le sens où va la masse monétaire, dans le même sens va le PIB. C'est automatique. Vous constaterez qu'en 2012 et en 2013, le gouvernement lui-même parle de la régression de la masse monétaire.
Et on ne peut pas avoir la régression de la masse monétaire d'un côté et d'un côté
l'augmentation
du PIB.
Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. D'autre part, nous savons tous qu'en 2012-2013, nos principaux partenaires, le marché international, est affecté par une crise profonde qui secoue aussi bien l'Europe que l'Amérique. Tout le monde le sait. Regardez même les catastrophes que l'Amérique vient de subir récemment encore avec l'incendie, et l'Amérique, tout le mandat de Obama n'a été qu'en fait une sorte de succession de crises depuis les subprimes jusqu'aujourd'hui, l'incendie, de différentes formes de crises qui ont secoué les États-Unis d'Amérique et qui ont affecté même la capacité d'Obama de gérer correctement l'économie. Obama n'avait pas évité scrupuleusement le débat sur l'économie, sur son bilan économique, je crois qu'excepté le taux de chômage qui s'est amélioré tant soit peu, je crois qu'il aurait beaucoup de difficultés à s'en sortir. Donc je voulais dire que l'économie internationale va subir, et le gouvernement l'a dit dans ses prévisions budgétaires, va subir une régression de ses performances économiques, ce qui veut dire que la demande internationale des biens produits par le Congo va baisser également. Mais comment on peut envisager un accroissement de la production dans un environnement international où la demande est en baisse? Donc cela signifie quelque part qu'il y a, un problème de cohérence, de logique même. Ce qui manque, me semble-t-il, dans les élaborations des prévisions budgétaires chez nous, c'est un peu de méthode scientifique pour qu'on parvienne à donner des chiffres crédibles aux citoyens.
Revenir au cas, parce que si nous avons vu les priorités, n'est-ce pas, définies par le Premier ministre, il y en a beaucoup. Si on pourrait bien les aborder une à une, ça va faire beaucoup d'autres émissions. C'est pourquoi nous avons voulu cibler le problème qui préoccupe tous les Congolais aujourd'hui, qui ne comprennent peut-être pas tout ce qu'il y a tout autour des chiffres, toutes les formules et calculs si possible, mais ils ont besoin concrètement de savoir comment le problème de ces inégalités salariales peut être résolu à partir de ce qui a été annoncé dans ce budget. C'est ça ce qu'ils attendent, qu'on leur donne des explications, qu'ils comprennent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Mais quand vous écoutez les auditeurs, déjà tous, ils pensent que ce n'est pas possible qu'on y arrive.
Oui, je crois d'abord que, comme d'habitude d'ailleurs, il faut saluer l'intention, la bonne intention du gouvernement qui a identifié le problème d'inégalité de salaire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord savoir ce que c'est que le salaire. Le salaire, c'est le prix du travail. Mais de quel travail parle-t-on? Où se trouve ce travail? Pourquoi on parle des inégalités de salaire et ne pas sombrer dans l'injustice économique générale? Il faut d'abord savoir qu'il y a effectivement la cause de ce salaire, c'est-à-dire le travail. Est-ce que le gouvernement a organisé le travail? Je voudrais donner un exemple, parce qu'on parle des fonctionnaires de façon plus générale.
Oui.
Vous savez que la France, ça fait un quart de la RD Congo, du point de vue de l'étendue. Mais la France, avec toute la technologie avancée, les ordinateurs et tout ce que vous voulez, la France fait 5 millions de fonctionnaires, s'il vous plaît. Le Congo n'a même pas 1 million de fonctionnaires. Alors qu'il fait 4 fois l'étendue de la France et a besoin d'affirmer la présence de l'État à travers tout le territoire national. Donc il y a un vaste vide. Maintenant, combien va-t-on payer à un salaire pour à un travailleur pour quel travail fait effectivement? Il faut que le gouvernement se dise au préalable que nous avons l'intention de couvrir de la présence de l'État l'ensemble du territoire national et en conséquence, il nous faut des fonctionnaires qu'il faut engager. Il nous faut engager des enseignants, il nous faut engager des médecins, il nous faut engager des policiers davantage, des militaires et autres pour que l'État puisse assumer ses fonctions régaliennes de façon efficace. L'État, cette question me semble être en dehors du débat budgétaire aujourd'hui. On va discuter du salaire qui n'est qu'une variable qui suppose la préexistence d'un marché de travail. Mais le marché de travail n'existe pas. Donc ce qu'on va avoir, c'est quoi? C'est des imputations forfaitaires. Ces imputations peuvent-elles parvenir à réduire les inégalités de ce qu'on appelle inégalités salariales? Je veux dire le mot salarial entre guillemets. Oui. Moi je dis, ça dépend de la volonté de l'État. Si l'État aujourd'hui décide de réduire le salaire du député national de 6 ou 7 000 dollars où se trouve, dit-on, à 1 000 dollars et d'augmenter en conséquence le salaire du fonctionnaire qui rend des bons services pour que le député lui-même existe comme tel, il peut le faire. C'est une décision d'ordre politique. Mais d'un point de vue économique, nous sommes en train de travailler sur des statistiques vides et creuses, des statistiques juste forfaitaires. On peut bien, dans le contexte de ce forfait, avoir des salaires parfaitement égaux parce que c'est une décision à prendre qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'économie. On peut parfaitement le faire. C'est une décision politique et on va aligner tout le monde. Donc ce n'est pas infaisable. Je dis que c'est tout à fait faisable si le gouvernement le veut ainsi.
C'est un problème de volonté.
Mais est-ce que cela signifie pour autant qu'on a donné aux Congolais des salaires? Je dis non. Il faudrait, c'est pour ça que je dis, le débat, me semble-t-il, d'un point de vue économique, est inexistant. D'un point de vue politique, oui, on peut débattre comment on peut faire au Parlement, mais il n'y a pas de salaire au Congo si on sait qu'il n'y a pas encore un marché du travail. On ne devrait même pas parler d'un budget au Congo si on n'a pas encore organisé l'économie nationale. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est des tableaux statistiques qui n'ont aucun impact sur la mercuriale, passez-moi le terme, si on pouvait faire une sorte de classification des économies, je crois que le Congo ne serait nulle part.
Voilà, je me rappelle dans la dernière émission avec vous dans ce studio, vous aviez même souhaité qu'il y ait c'est une forme de table ronde qui s'occupe des vrais problèmes économiques et les définir, qui malheureusement, je ne sais pas si c'est dans le milieu économique, on en parle avec les pouvoirs publics pour avoir toutes ces réflexions et savoir sur quel pied on va danser. Mais si on va y aller avec les interventions conjoncturelles, ce qui veut dire quelque part, ces interventions peuvent s'arrêter. Parce que si la situation, s'il y a une donne qui bouleverse la situation économique et que nous y allons d'une manière conjoncturelle, cela veut dire qu'on ne pourra pas avoir des réponses à donner en cas de bouleversement de la donne économique.
Mais vous savez très bien, Pierrot, qu'aucun budget dans ce pays n'a été exécuté depuis longtemps. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est des débats des gens qui s'affolent pour rien, mais en réalité, aucun budget n'a été exécuté dans ce pays. Le budget 2012 a été voté, je ne sais pas, en août ou en septembre, je ne sais pas quel mois de l'année 2012, à trois mois de la fin. Comment peut-on parler d'un budget? Les autres budgets, vous souvenez, le Fonds monétaire international, quand il a dit qu'il a boycotté l'exécution d'un budget, ça a été suivi à la lettre.
Mm-hmm.
Nous fonctionnons en vrac, nous fonctionnons comme une économie de cueillette, comme un système de cueillette, où le gouvernement on se donne quand même l'exercice ou la peine de donner au Parlement un tas de tableaux statistiques dont il sait très bien que le Parlement ne va pas les décortiquer intégralement, juste peut-être pour se donner la justification voilà. D'accroître des salaires des hommes politiques.
Voilà, nous allons revenir à vous. Le temps d'écouter Gérard qui est à Lubumbashi, Modeste qui est dans le Bandundu et à Zilali qui est à Kailo, au Maniema. D'ailleurs, pour répondre à la préoccupation d'Olivier autour des articles paru dans la presse sur Matata Sauvé des Justesses par Obeminaku. Il s'agissait bien sûr d'une motion du député Bampori qui pensait qu'on ne pouvait pas examiner le projet du budget 2013 sans avoir d'abord jeté un coup d'œil en arrière. Qu'est-ce qui a été fait avec la réduction des comptes, les termes utilisés et l'exécution des autres budgets? Je crois que cette question revient presque chaque année. Pourquoi on n'a pas vu l'exécution du budget 2011? Bon, tantôt la motion est rejetée, on examine l'actuel budget et puis bon, c'est un peu ça. C'est qu'a dit notre ami maître Aubin de Kindou que ça va être la même chose, on va revenir à la même chanson mais sans solution. On va voir tout cela après avoir écouté les trois autres auditeurs qui sont sur les antennes.
Parole aux auditeurs.
Gérard, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les explications données par notre invité et la réalité dans cet échange autour de ces projets de budget 2013 et surtout en ce qui concerne cette question épineuse de la lutte contre les inégalités salariales. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Voilà, merci beaucoup. Je remercie beaucoup l'invité qui est dans votre studio. Je sens que il a vraiment de la matière et il analyse la question comme ça l'est, et ça c'est très bien. En fait, moi je vais donc aborder la question de cette bancarisation et cette lutte contre les inégalités salariales en République démocratique du Congo. D'abord, la bancarisation elle-même. Moi je pense que c'est une manière pour l'État congolais de se débarrasser de manière assez facile de ses agents. Parce que, vous le savez, en RDC, quand on a fini son temps de travail et qu'on est candidat à la pension ou aller à la retraite, il y a toujours ces petits problèmes des indemnités de service qui n'arrivent toujours pas. Voilà pourquoi les anciens fonctionnaires de l'État ont pu continuer à ne faire que de soutenir du maigre salaire qu'ils étaient en train de toucher, bien que n'étant plus en pension. Et puis, il y en a qui sont d'ailleurs morts et leur famille continue à bénéficier de ces salaires déduits à leurs parents. Et maintenant, quand on exige une présence physique, culture avec l'identification biométrique, et passer maintenant à la bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État, je pense que l'État congolais veut se débarrasser carrément de ces agents-là, alors qu'ils n'ont pas encore reçu leurs indemnités de sortie. Il y en a qui sont d'ailleurs déjà morts et leurs familles n'ont jamais rien reçu de l'État pour démontrer qu'on les a carrément désintéressés de la politique ou de la fonction publique de la RDC. Je pense que normalement, on devrait procéder par un recensement de tout le monde qui avait été fonctionnaire de l'État avant de pouvoir procéder à des identifications biométriques qui du reste demandent une présence physique des gens. Et en ce qui concerne la lutte contre les inégalités salariales, je pense que c'est une utopie, je pense que c'est une idée de Matata Premier qui est faite, mais entre-temps, est-ce qu'il va y arriver? Parce que demain, s'il se lève et dit qu'il va réduire le salaire des députés, tout le monde va se lever à l'Assemblée, démontrer qu'ils ont droit à ces 13 000 dollars américains-là. Mais entre-temps, le fonctionnaire de l'État, l'enseignant de l'école primaire et secondaire, est-ce qu'il va un jour arriver à avoir encore cette liberté d'être enseignant, ou carrément ça sera une vie de tous les jours, et je suis très sûr que le premier ministre ne va pas y arriver.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Gérard. Vous êtes à Lubumbashi. D'ailleurs, vous avez évoqué la question de la bancarisation, bien sûr, l'opération des payes et des salaires par la voie bancaire. Nous en avons discuté hier dans cette émission. Si vous avez suivi avec Monsieur Jean-Louis KMB de la Banque Centrale, mais qui est aussi le président du comité des suivis de cette opération, on a fait ce débat hier avec toutes les questions, toutes les préoccupations posées par les auditeurs et les réponses qu'il a pu apporter aussi, mais comme invité aussi sur Radio Okapi. Mais vous revenez par rapport à cet objectif de lutter contre les inégalités salariales. Vous avez peur, vous pensez que ça ne pourra pas être possible que les premiers ministres puissent y arriver aujourd'hui, si jamais dans la réduction des trains de vie des institutions, qu'on dise qu'on va réduire les salaires des parlementaires, les députés nationaux et les sénateurs. Je ne sais pas s'ils vont l'accepter. Les débats, d'ailleurs, vont encore être soulevés par rapport à leurs émoluments. Voilà un peu toutes ces questions, tous ces paramètres. Vous pensez que ce n'est pas possible aujourd'hui de pouvoir atteindre cet objectif. Modeste, vous êtes dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Et bonjour à l'auditeur.
On vous écoute, Modeste.
Oui, j'ai des problèmes à ce point. Le premier point, c'est au niveau de l'exécution. Le budget n'est plus normal. 7,5 milliards, ça suffit. Mais l'exécution, c'est sérieux. Est-ce qu'on exécute les 7,5 milliards? On exécute peut-être 5 milliards. Les 2,5, c'est dans les comptes bancaires, c'est des ressources. Mon problème, c'est au niveau de l'exécution. Et le Premier ministre, c'est normalement le budget est décidé. On a voté en début. Qu'est-ce qu'on a eu? Bien, les 7 milliards, c'est au mois de mai qu'on a voté ce budget. Où en sommes-nous? Au mois de novembre, on va encore voter un peu. Le deuxième point, c'est au niveau de l'État, les ministres, le premier ministre, le chef de l'État. J'aimerais qu'on ait une réduction de leur salaire. Quand là, ça ne suffit pas. Ça n'arrive rien au fait qu'on allait. On doit réduire leur salaire. Tous les fonctionnaires de l'État, les enseignants puissent expliquer tout ça. Sinon, c'est nul. Mais c'est nul. Avec petit tout, un député touche bien. Et le ministre, ça ne suffira pas que ces problèmes n'est pas résolu.
Voilà, merci beaucoup Modeste. Voilà. Merci beaucoup Modeste. Mais là aussi des petits soucis avec votre ligne. Hein. Vous dites que le premier problème c'est l'exécution du budget. On a vu toutes les autres fois passées. Qu'est-ce qui a été fait? Vous pensez même qu'on ne peut qu'exécuter à 5 milliards, 2,5, ça va disparaître pour prendre des destinations inconnues. C'est votre point de vue. Et vous pensez aussi qu'il serait mieux de faire des coupes hein, dans ce qui touche les députés. Ce qui touche les sénateurs, le président de la République avec toute son institution, les ministres, les membres du gouvernement, comme ça, ça peut résoudre les problèmes de fonctionnaires et agents de l'État. Asie Lale, vous êtes à Kailo dans le Maniema. Bonjour.
Bonjour, Kapi. Ça, c'est Zangu Asie Lale qui vous appelle depuis Kailo au Maniema.
Vous avez suivi les uns et les autres. Les gens sont très très inquiets. Mais aujourd'hui, pour arriver à ces objectifs de pouvoir lutter contre ces inégalités salariales, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait au niveau du gouvernement?
Pour moi, messieurs les journalistes, ça serait évidemment une grande erreur, donc une grosse erreur de condamner trop tôt, messieurs Matata Pognon, du budget qu'il vient d'opter. Laissons d'abord ce budget agir. Vous comprenez? Laissons d'abord le budget agir, puisque le problème n'incombe pas à la grandeur du budget, mais le problème incombe aux hommes. Ce sont les hommes, les dirigeants congolais, qui sont à la base de cette crise. Parce que le même budget a échoué l'année passée, que ça va échouer dans cette année. Ça ne va pas échouer, ça va réussir. Voyons voir vous, avec voilà. ma tata.
Voilà, merci
Donc,
beaucoup.
Vous voyez, monsieur, vous voyez, monsieur, avec les gros billets qu'il vient de larguer, nous tous, nous étions très inquiétants. Donc, nous attendions à une inflammation grave. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ce n'est pas ça. Les choses aillent de l'avant. Et ça va tenir.
Voilà, vous êtes ouais, confiant merci. Plutôt. Voilà, merci Azilale, vous êtes plutôt confiant. Vous pensez que le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir un gros budget ou un petit, mais le problème, c'est de savoir comment les hommes travaillent pour l'exécuter. Vous n'êtes pas inquiet. Vous pensez comme on n'a pas senti l'inflation avec la mise en circulation de grosses coupures, s'il faudrait utiliser ces termes. Pour vous, même ces problèmes de budget va être résolu. Il faut d'abord que les gens puissent garder patience pour voir comment cela va se faire sur terrain. Nous avons Maurice qui est ici à Kinshasa. Bonjour Maurice.
Bonjour.
On vous écoute Maurice.
Oui, en fait, pour moi, j'aimerais d'abord commencer par une disposition, je pense, de la loi financière du pays. Je ne sais pas si de la Constitution, où il est prévu qu'il y ait une loi, d'abord, un préalable à la présentation du budget de l'année prochaine. Donc on devrait déjà d'abord commencer par la présentation du projet de loi de la reddition des comptes. On ne peut pas envisager un budget, un autre budget, sans au préalable étudier, analyser et que ceux qui ont géré le budget de l'année 2012 ne puissent pas présenter leur bilan. Comment ils ont fait avec ce budget? Comment ils les ont exécutés? À quelle hauteur? Directement, on passe. C'est comme si vraiment ce pays, vraiment, on n'a pas besoin des gens, on n'a pas besoin des textes, on n'a pas besoin du peuple, comme on dirige par défi. Donc, on peut se permettre de tout faire. Parce que j'ai suivi même à l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui se disent de cette majorité-là factice, qui ont même... qui se sont opposés contre un opposant, plutôt un député, qui a émis une motion de, je ne sais pas quelle nature de motion, pour interpeller le Premier ministre, d'abord, qu'on puisse arrêter cette histoire de la des projets de loi de finances de 2013, qu'on commence d'abord par la reddition des comptes, que le Premier ministre puisse expliquer comment il a exécuté le budget 2012. Bon, dans le budget 2013 qu'on nous a présenté, vous avez vu que il y a quelque part où il y avait 3 milliards réservés juste pour l'habillement, pour des sandwichs, pour les cartes prépayées et de communication. Je ne sais pas, nous sommes dans quel pays, pendant que dans d'autres rubriques, vous avez vu combien qui ont été réservés pour, par exemple, la recherche scientifique et d'autres. J'en passe. Alors, je pense que le pays ici va être vraiment gouverné aux attentes de la population, aux désidératas de la population. Donc, c'est un budget vraiment complaisant, un budget vraiment qui ne répond pas vraiment aux besoins de la nation, où on va réserver, je ne sais pas, 17 000 pour les fonctionnaires, je ne sais pas, c'est une fierté, et cela va ajouter quoi par rapport au pouvoir d'achat? Vous-même, vous êtes là. Comment les gens vivent dans ce pays? Donc, ouais. Je voudrais demander que d'abord qu'il commence par la reddition des comptes, parce que ça, c'est un exercice constitutionnel qu'on a toujours bafoué ici du pied, parce qu'ils savent qu'à travers cet exercice, le peuple peut au moins comprendre comment on gère l'argent du pays, du contribuable. Parce que cet argent, c'est vous et moi qui contribuons pour vraiment avoir ce budget. Mais aujourd'hui, quand vous et moi ne sommes pas au courant de la manière dont ce budget est géré, je ne pense pas que vraiment nous sommes dans un état vraiment où nous sommes administrés plutôt.
Merci beaucoup.
Nous sommes vraiment dans un état voyou.
Merci, Maurice. Je crois bien que nous sommes dans une émission publique Parole aux auditeurs. Nous pouvons aussi peser les termes et les mots que nous utilisons parce que c'est une émission pédagogique aussi qui permet à ce que les gens comprennent quels sont les termes que nous utilisons. Nous pouvons aussi bien gérer nos émotions parce qu'on sait que quand les problèmes que nous avons sont tellement grands, nous avons beaucoup d'émotions quand nous en parlons, mais on peut bien aussi les gérer pour que nous puissions utiliser les termes qui sont commodes sur les antennes. Daniel, gardez la ligne. Nous allons revenir à vous, Michel. On a écouté les uns les autres. Si nous partons du fait que les principes de base ne sont pas respectés, parce que vous l'avez déjà présenté, mais nous sommes devant un fait, devant un problème, il faut quand même qu'on y arrive, parce que les gens, ils ont des réponses, des questions, ils ont besoin des réponses. Pour la question qui touche aux réductions des comptes, on va revenir là-dessus. Au niveau de l'Assemblée, la motion a été, comme on dit, ça n'a pas cadré avec le règlement, on a rejeté, c'est déjà passé, nous sommes déjà à une autre étape, je ne sais pas. Prochainement, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le débat au niveau de l'Assemblée nationale. normal. Mais pour revenir à ces problèmes, vous avez dit un débat économique et un débat politique. Bon, si on revient aujourd'hui, comment concilier ces débats politiques? Parce que les politiques doivent se baser sur les débats économiques pour qu'on puisse résoudre ces problèmes politiques qu'ils ont. Si les débats politiques ne se basent pas sur l'économie, je ne crois pas qu'on va les résoudre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour marier les deux, ces débats politiques, mais aussi avec les bases économiques pour que tous ces tableaux, tous ces chiffres puissent être réels, concrets et touchés par la population?
Je crois que ce qui manque à nos hommes politiques, principalement à ceux des institutions, c'est l'ambition. C'est l'ambition pour comprendre que nous sommes une grande nation et que nous devons être gérés en tant que grande nation. Mm-hmm. Vous parlez aujourd'hui des inégalités salariales, mais le salaire au Congo n'existe pas, il ne fait même pas l'essentiel de la vie du citoyen congolais. Nous sommes, regardez le salaire d'un général, il touche combien le général? Si vous voulez rabattre un salaire, il sera combien? Vous regardez le salaire d'un directeur de la DGI, il recevra des impôts, il touche combien? Si vous voulez rabattre un salaire, il sera combien? Je crois que c'est un faux débat. Lorsque Moïse Kabila est entré dans ce pays en 97, il avait la même illusion qu'il y avait des institutions, plutôt des entreprises où les salaires étaient trop hauts. Et qu'il fallait les rabattre. C'était notamment le cas de la Banque Centrale, le cas de l'OFIDA et ailleurs. Il fallait rabattre les salaires. Et quand il a rabattu les salaires, il a vu qu'il n'y avait rien comme changement. Et au contraire, il avait introduit plus de misère encore qu'avant. Et il a même entraîné l'économie dans une sorte, pas une sorte, dans la déflation. On a remplacé l'inflation par la déflation dans ce pays. C'est encore pire. Et je ne voudrais pas analyser ce qui a dû suivre par la suite. Mm-hmm. Mais simplement pour dire que des variables économiques ont leur contenu social et c'est important qu'on les respecte si on veut bâtir une économie nationale et faire des débats qui soient scientifiquement compréhensibles. Ça, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'à propos des salaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut ramener, si on veut établir ce qu'ils appellent réduire ou annuler ou supprimer les inégalités salariales, c'est trop facile à faire dans une économie forfaitaire comme la nôtre. Une économie où toutes les statistiques sont imputées forfaitairement et ne relèvent d'aucun calcul mathématique économique viable, crédible. Donc c'est comme le taux de change, c'est comme toutes les restes. Il suffit qu'on dise aujourd'hui, désormais, la monnaie, le franc congolais, c'est 1 dollar, c'est 90 francs, et ça va être 1 dollar 90 francs, mais c'est forfaitaire. Le taux de change n'est pas celui-là, économiquement parlant. Mm-hmm. Le taux de change, c'est le différentiel des taux d'intérêt entre deux places, la nôtre et celle de la monnaie, de référence à laquelle nous référons. Mais chez nous, ça n'a aucun sens. Donc ce sont des forfaits, c'est une somme d'économie forfaitaire, et voilà pourquoi nous sommes des économies chétives. C'est normal parce que nous sommes trop chétifs. Le Congo, ça vaut peut-être plus de 50 autres pays dans ce pays, et du point de vue de la démographie et du point de vue de l'étendue. Il y a des pays qui ont des...
Excusez-moi, je veux vous interrompre parce qu'on va suivre le flash d'information, on revient, parce qu'on va continuer pour les derniers quart d'heure. Le temps qu'on écoute le flash d'information, on a juste 5 secondes, on commence le flash, on va se retrouver tout de suite là pour continuer. Parole aux auditeurs se poursuit en sa dernière partie, consacrée bien sûr à l'examen du budget 2013 à l'Assemblée nationale. Nous avons pris vos lutte contre l'inégalité salariale retenue comme objectif par le Premier ministre. Nous en parlons dans ce studio avec M. Michel Somoué. Nous vous avons pris dans cette casquette d'économiste, mais vous avez aussi d'autres fonctions que vous assumez, que nous avons toujours évoquées dans Parole aux auditeurs. Alors, vous étiez en train d'évoquer ces problèmes de procédures à utiliser aujourd'hui pour avoir ce qu'on peut appeler, entre guillemets, salaire égal, si on peut dire ainsi. Vous pouvez poursuivre votre idée. On va écouter aussi les trois derniers auditeurs.
Oui, je disais justement à propos de ce salaire, je disais que lorsque nous regardons, pour dire que c'est un faux débat, lorsque nous regardons le salaire d'un général aujourd'hui, à peu près 80 000 francs par mois, nous regardons le salaire d'un directeur de la DGI, un directeur de l'OFIDA, nous regardons les salaires de différents fonctionnaires, même au ministère de la fonction publique et autres, lorsque nous comparons ce qui touche comme salaire à leur train de vie, nous nous rendons bien compte que ça n'a rien à voir avec le salaire. Donc parler, faire du problème de salaire inégal comme étant le véritable problème, n'est pas de l'inégalité de salaire un véritable problème, je crois que ça c'est un faux débat. Mais faire du salaire une question de base de l'économie en tant que variable économique, ça c'est un bon débat. Mm-hmm. Et en faire un bon débat, faire du salaire un bon débat signifie qu'il faut discuter d'abord de l'existence et de l'organisation du marché du travail. Est-ce que dans ce pays il y a un marché du travail? Est-ce que dans ce pays, on tient compte des compétences? Est-ce que dans ce pays, il y a une demande de travail et une offre de travail qui puisse se rencontrer sur une courbe et dégager ce qu'on puisse appeler un salaire d'équilibre? Nous sommes une économie où toutes ces données économiques, où tous ces fondamentaux économiques n'existent pas. La tâche du gouvernement, à mon humble avis, avant d'aller au Parlement rencontrer d'autres bavards, excusez-moi le terme, la tâche du gouvernement aurait dû être d'abord de donner à ce pays une économie nationale assise sur des fondamentaux économiques qui sont les différents types de marchés, parce que l'économie n'est rien d'autre qu'un marché, c'est-à-dire une offre et une demande de quelque chose qui doivent se rencontrer et qui doivent dégager une valeur d'équilibre qu'on appelle prix, qu'on appelle salaire, qu'on appelle taux d'intérêt, qu'on appelle etc. etc. Voilà ce qui manque dans ce pays. Mais là, nous arrivons au débat avec des tableaux statistiques des imputations forfaitaires. Nous les donnons aux parlementaires pour dire discutons du budget, discutons des inégalités salariales. Mais on assiste à un débat qui rend fou les intellectuels. Parce qu'à la limite, vous dites mais de quoi on parle? Vous allez réduire les inégalités salariales en sachant très bien que nous sommes le seul pays au monde où personne ne vit de son salaire. Nous le savons très bien. Mm-hmm. Donc on veut le salaire pour quoi faire? Lorsque, en réalité, on sait que le train de vie qu'affiche un certain fonctionnaire qui n'a que 40 000 francs par mois ou 50 000 francs par mois, le train de vie qu'affiche un policier de roulage sur la route, quand vous le comparez à un autre roulage qui se trouve dans un autre pays, vous voyez qu'il n'y a aucune mesure commune. Aucune mesure commune. Donc en réalité, le salaire n'est pas considéré dans ce pays comme étant une variable économique de base, pour fonder tout un débat sur les inégalités ou pas de ce qui n'existe pas. Commençons d'abord par faire exister ces catégories économiques, ces variables économiques. Les salaires, les taux d'intérêt, l'emploi, ce sont des variables économiques, les taux d'échange. Faisons-les d'abord exister à travers l'organisation des marchés. Ils n'existent pas. Moi, je pense que si nous avions un Parlement sérieux, je crois que depuis les années 80, on n'accepterait aucun budget dans ce pays. Parce qu'il n'y en a pas. Et la conséquence, ou si vous voulez me la preuve, est qu'il n'y a aucun budget qu'on vote au Parlement qui est exécuté par la suite. Lorsqu'on vote un budget, lorsqu'on fait la reddition des comptes, comme on l'a dit tout à l'heure, on se rend compte que voilà, la Banque centrale a fait un dépassement de 330%. De ce crédit budgétaire. Bon, tel autre, la présidence
est à 200%.
La présidence est à 200%. La primature est à 2%. Ça signifie quoi? Ça signifie que les prévisions que le gouvernement a fait sont des prévisions les plus irrationnelles possibles, et parce que ce sont des forfaits, et chacun se comporte suivant la règle du plus fort.
Voilà, on va écouter les trois derniers auditeurs. Hein. On ne sait pas si on va tous les écouter trois, parce que là, on n'a pas assez de minutes pour conclure cette émission avec notre invité. Daniel, vous êtes à Goma, bonjour. Bonjour. Daniel, bonjour. Voilà, apparemment on a perdu Daniel sur la ligne. Hein. Nous avons Orifin qui est dans les Bandundu. Bonjour Orifin. Orifin, bonjour. Orifin aussi, deux problèmes. Étienne, vous êtes à Arou en province orientale. Bonjour Étienne. Étienne, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, là on a eu des petits soucis avec les lignes téléphoniques de ces trois derniers auditeurs, Daniel Degoma, Orifin et Étienne. Apparemment ça n'a pas marché, je pense qu'on ne pourra pas, et comme on est déjà à la fin vraiment de cette émission, nous allons revenir à notre invité Michel Somoué. Orifin est lui sur les antennes, on peut aller. Orifin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Et voilà, on a eu des petits soucis avec vous là. On vous écoute parce qu'on termine déjà cette émission en une minute et demie, votre point de vue.
L'intention du Premier ministre est vraiment louable. Parce que c'est la première fois d'entendre un Premier ministre se soucier un peu des salaires des fonctionnaires. Moi, je suis enseignant. Mais mon inquiétude est que, est-ce que ce budget sera vraiment appliqué? Et puis, c'est un budget très faible. Il est comparable au budget Mosito. Comment il va réussir pour vraiment améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, des enseignants, etc. Alors, moi, je me demande, comme le budget est très faible, c'est un budget que je ne peux pas comparer par rapport au budget d'autres pays comme l'Angola, mais je demanderais d'abord, avant qu'on réalise cela, que le Premier ministre puisse tenir compte d'abord de maximiser les recettes en mettant fin au contrat léonin. Vous savez que nous comptons beaucoup sur les minerais de notre pays, mais en fait, quand nous regardons, ces minéraux ne profitent pas à l'État congolais, les contrats lyonnais. Le dernier cas en espèce, c'est le cas de mining, Tenkefumuru, mais mining qui n'a pas même son livre de quête au Congo. Donc, il doit d'abord faire un effort pour mettre fin au contrat lyonnais que les minéraux produisent au Congo, rentabilisent la caisse de l'État, Et puis, il doit aussi mettre fin au détournement. Parce que quand vous allez là-bas, l'argent de l'État n'entre pas dans les caisses. Il y a toujours des détournements. Et il doit mettre fin aussi aux agents fictifs. Là, déjà, il y a un effort qui est en train d'être fait. Il doit aussi mettre fin à l'égoïsme des Congolais. Et que les Congolais développent l'amour du prochain. Mais quand vous comparez les salaires, par exemple, d'un député que nous avons élu avec nous, les fonctionnaires. Donc, cet égoïsme-là doit prendre fin. Et puis, il doit mettre fin aussi à la guerre. Parce qu'avec la guerre, comment nous allons pouvoir récupérer nos minéraux de l'Est?
Donc, voilà, merci. Merci, Ruffin. Autant de propositions. Vous avez d'abord dit, par rapport à l'intention, c'est déjà bien que le Premier ministre dise dans son discours qu'il pense à résoudre le problème des inégalités salariales. C'est déjà bien par rapport à l'intention. Mais quand on entre au fond, vous dites que c'est pas différent de budget qui ont été présentés du temps du Premier ministre Adolphe Mozito et c'est très faible. Mais il y a aussi autant de recommandations pour vous. Il faut la maximisation des recettes. Il faut des clartés dans l'octroi des marchés dans l'exploitation minière. Le problème des détournements de fonds, les agents fictifs. Mais vous avez aussi exhorté les gens par rapport à l'égoïsme des Congolais, ce qui touche plus par rapport aux autres. Tout simplement, comment cela doit être résolu. Vous pensez que c'est la conjugaison de tous ces facteurs qui peuvent faire assez qu'aujourd'hui, qu'il puisse atteindre son objectif de réduire ou de supprimer les inégalités salariales et résoudre le problème du social de la population. Nous revenons à vous, Michel Somoy, parce qu'on va terminer cette émission. On a écouté les uns et les autres. C'est vrai que les problèmes de fond sont réels. Il faut les prendre tels qu'ils sont définis et avec les principes économiques pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Est-ce que on peut rester pessimiste comme l'ensemble de nos auditeurs qui ont pensé que dans l'intention c'est bon, mais dans le fait, on risque de terminer l'année 2013 comme on l'a commencé avec les mêmes plaintes, les mêmes problèmes, les enseignants, les fonctionnaires, et à la fin, on ne verra pas toujours l'effet de tous ces budgets avec tous les débats sur le vécu quotidien de la population.
Je n'appelle pas ça pessimisme, j'appelle ça réalisme. L'expérience rend sage. Mais c'est un réalisme qui devrait interpeller le gouvernement. Mmh. Les bonnes intentions, oui, tout le monde le connaît, tout le monde l'a répété. Il n'y a rien de plus noble qu'une intention de dire on doit réduire les inégalités salariales. Mais considérez d'abord ce que vous appelez le salaire. Ce général qui a 80 000, réduire les inégalités, est-ce à dire que vous allez ramener le salaire du député de 7 000 $ à 80 000 francs congolais ou allez-vous remonter le salaire du général de 80 000 à 7 000 francs?
D'autant plus qu'on n'a même pas un barème salarial.
Voilà le problème. Moi, je pense qu'on devrait se poser des questions suivantes. Dans ce pays, je soutiens aujourd'hui que le Congo est capable d'avoir un budget de 100 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous faisons de nos 130 millions d'hectares de forêt qui séquestrent le gaz carbonique émis pour la pollution du monde entier? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous savons qu'il y a la taxe carbone qui rapporte 32 euros la tonne ici en France? Et nous, la taxe carbone nous rapporte, nous gagnons combien avec nos 130 millions d'hectares de forêt qui séquestrent tout ça, mm-hmm. qui est à la base de qui est payé, les pollueurs sont en train de payer chaque jour ou chaque année, ils payent des taxes. Est-ce que nous avons gagné de cette taxe une seule fois? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. C'est là le rôle de l'État. Regardez, quand on a pensé une seule fois au cuivre de la Gécamine, en se tournant vers la Chine, nous avons quand même des autoroutes qui ont commencé à pousser. Il faut le reconnaître, il faut le saluer. Le boulevard du 31 est devenu très beau, le boulevard Lumumba. Quoi? On a vu un certain effort dans l'aménagement des routes dans la ville de Kinshasa et ailleurs. C'est seulement parce qu'on a pensé qu'on avait des ressources naturelles quelque part du côté du Katanga et qu'on pouvait faire un contrat sur le bas de ces ressources avec un pays comme la Chine ou avec une des entreprises chinoises. Bien sûr que ces contrats ne sont pas forcément bien élaborés, mais ils nous ont quand même donné, malgré leur mauvais état, ils nous ont quand même donné un certain nombre de résultats possibles. Combien ça coûte d'avoir des autoroute dans ce pays. Mais nous disons que nous pouvons, si le gouvernement congolais se prend au sérieux, il se fait fort et il est capable d'une certaine intelligence, nous pouvons nous tourner vers les emprunts extérieurs et gagner davantage en mettant en gage nos ressources naturelles qui sont surabondantes. Nous pouvons nous tourner vers notre planche à billets. Je souligne le mot planche à billets malgré le fait que cela choque beaucoup de conscience, mais je le souligne en tant qu'économiste, en tant que monétariste. Je dis que la monnaie peut financer l'économie d'un pays de façon substantielle lorsqu'on est sérieux.
Merci.
Nous pouvons nous tourner vers l'épargne intérieure ou extérieure et faire des choses qui sont merveilleuses pour avoir un budget quand même qui respecte plus ou moins les dimensions et la démographie de notre pays. Et surtout que nous sommes un pays à des millions de problèmes.
Voilà, merci beaucoup Michel Somoué. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes analyste économique et docteur en sciences économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons également merci à nos auditeurs qui ont été très très nombreux à suivre cette émission consacrée bien sûr au volet à lutte contre les inégalités salariales dans le budget, le projet de budget 2013. On va se retrouver demain jeudi à 11h, 3 minutes heure de Kinshasa. Vous le savez, c'est depuis ce matin que Barack Obama a été réélu pour un second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est un mandat bien sûr des 4 ans. On va se retrouver avec vous autour de cette élection. Que peut attendre la RDC de ce nouveau mandat du président américain? Prenez déjà rendez-vous sur l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Au revoir.